En décembre 2015, les comédiens Jean-Stéphane et Alain Dafosse proposaient à l'Espace Bonnefoy à Toulouse une lecture-spectacle intitulée « Les Amis Européens » autour d'extraits de la correspondance entre les écrivains Romain Rolland et Stefan Zweig entre 1910 et 1919. Ces correspondances constituent un document exceptionnel sur l'histoire européenne du XXe siècle et offrent de multiples sources de réflexion qui trouvent un prolongement dans l'époque actuelle et par-delà un modèle d'amitié et de fraternité exemplaire. Les Amis Européens, par Jean-Stéphane et Alain Dafosse, première partie.
J'ai parfois du mal ici à parler aux gens. Ils s'imaginent que c'est du découragement que de s'efforcer d'exprimer un point de vue totalement impartial. Et l'appréhension de la phrase toute faite est pour eux de la pusillanimité. Ils ne s'imaginent pas à quel point l'autosuggestion permanente, certes, renforce, mais enivre aussi. Et que seul agit bien celui qui, tout en gardant sa lucidité, conserve son engagement passionnel. Je sais qu'avec vous, je pourrais parler. Je sais qu'avec vous, je pourrais parler de tout ça en dépit de nos origines différentes et pesant lourdement maintenant. Je sais que nul n'a le pouvoir de se soustraire complètement à la psychose des masses et que votre sang et le mien ne coule pas au même rythme. Mais une volonté rigide, celle qui ne veut pas être convaincue, me fait défaut. Il y a chez la plupart des gens un dangereux penchant à n'exprimer de leur opinion que ce qu'elle a de commune avec toutes les autres et d'étouffer tout aspect personnel, aussi parce qu'on n'a pas le droit de l'exprimer. Mais nous, qui voulons être libres dans nos jugements, je pense que nous devons être ouverts à chaque point de vue et ne pas bondir immédiatement lorsqu'une parole nous heurte. Je vous salue très chaleureusement et mon fidèle souvenir est pour vous votre Stefan Zweig.
Je ne suis pas surpris que nous sympathisions. Depuis que j'ai lu pour la première fois des vers de vous, je vois que nous sentons bien des choses de même. La poésie des cloches, de l'eau, de la musique et du silence. Et vous êtes un Européen. Je le suis aussi de cœur. Les temps ne sont pas loin où l'Europe même sera la petite patrie et où elle ne nous suffira plus. Alors nous ferons rentrer dans le cœur poétique les pensées des autres races pour rétablir la synthèse harmonieuse de l'âme humaine. Veuillez croire, cher monsieur, à ma toute dévouée sympathie, Romain Rolland.
L'Europe, après cette guerre, s'enfoncera davantage encore. Car je sais trop bien ce qui viendra après. Le mensonge héroïque. Tous ceux qui, aujourd'hui, sont sur le front et maudissent la guerre, en feront alors l'apologie devant leurs enfants, la décrivant comme quelque chose de beau et de désirable. En raison d'une étrange défaillance de la mémoire qui ne retient que les souvenirs les plus beaux, en raison aussi de la vantardise et d'un manque de sincérité. Et ainsi, cette génération qui a subi la guerre et qui pourrait en témoigner, au lieu de témoigner, la portera et la mettra en garde contre elle, la portera justement au nu. Ceux qui l'ont vue frissonnant, mais de loin, comme nous, seront morts entre-temps. Et la semence de l'enthousiasme mensonger aura pris racine dans la jeune génération. C'est la semence de 1870 qui a rendu cette guerre possible, car ce sont les fils de ceux qui se sont battus alors, qui sont aujourd'hui au pouvoir, et non ceux qui y ont participé. Je suis conscient que les gens qui rapportent aujourd'hui ces faits tragiques, tout en suppliant qu'on en finisse, vont eux aussi parler dans 10 ans du bon vieux temps, victimes de leur propre légende et de cette apologie. Que faire contre cela, très cher ami? Il se peut que nous soyons tous les deux profondément impliqués dans notre propre histoire pour être toujours d'accord, partagés entre les raisons et les torts de toutes les parties en présence. Mais nous serons d'accord, j'en suis sûr, sur l'essentiel, sur ce qui touche à l'essence humaine et qui est commune à toutes les nations, justement. Comme ce serait beau de travailler à cette réconciliation.
Mon cher ami, ne vous laissez pas troubler par l'événement. Il faut en prendre son parti. Et comme dit Candide, cultiver son jardin, ce n'est pas égoïsme. Les autres mangeront nos fruits.
La guerre nous impose, à mon avis, de nous taire. Je l'ai déjà écrit. Mais les blessés, les malades, les prisonniers, ce n'est plus la guerre, c'est seulement la misère. La misère infiniment tragique et humaine que le poète se doit de défendre. J'attends un mot de votre part en faveur des blessés et des malades. Car si nous ne pouvons pas aider tous les autres, ceux qui doivent tuer et se faire tuer, si nous n'avons pas pu retarder ne serait-ce qu'un instant l'horreur de l'action, alors nous devons au moins porter secours aux malades et aux victimes et exiger un peu d'amour pour ces malheureux. J'ai rendu visite aux blessés russes ici dans nos hôpitaux avec une dame qui parlait leur langue. J'ai pu voir à quel point ils étaient heureux, les pauvres, ne serait-ce que d'entendre leur langue, et combien l'amour fait doublement défaut à ceux qui sont hospitalisés en pays ennemi. Vous étiez vous-même malade, Romain Rolland, et vous savez à quel point la bonté et la tendresse peuvent être un baume extraordinaire dans ces moments-là. À cause de la souffrance du corps, l'âme est tout en éveil, et l'hostilité même d'un regard ou d'un mot peut rouvrir les blessures et remettre de la tendresse et donner un baume extraordinaire dans ces moments-là. Je fais donc appel à vous, non pas à l'ami, mais au poète, à l'homme. Aidez les malheureux, prêchez la bonté envers les malades. Romain Rolland, parlez. Dans quelques années, lorsque l'on se souviendra tous de cette guerre, vous vous demanderez « qu'ai-je accompli alors ?» Et si vous n'aviez réussi que cela, qu'un seul malade en pays ennemi ait pu bénéficier d'une once de bonté, vous pourriez vous dire « je n'ai pas été complètement inutile ».
Je travaille à Genève, à l'agence des prisonniers de guerre, sous la direction de la Croix-Rouge internationale, qui sert d'intermédiaire entre les prisonniers allemands, autrichiens, russes ou français, et les familles qui les recherchent. Plus de 4000 lettres par jour. Toutes les angoisses du monde viennent passer dans nos mains, pauvres et riches, grands seigneurs et paysans. C'est l'égalité devant la douleur. Une situation particulièrement cruelle est celle des prisonniers civils, car elle n'a été prévue par aucun règlement antérieur et les Croix-Rouges refusent de s'en occuper. Vous savez que, depuis le début de la guerre, on a pris de tous côtés des milliers de ces pauvres gens qu'on a arrachés subitement à leurs familles, sans même leur donner le temps de se munir d'aucun argent, ni de vêtements de rechange. Et l'on ne sait rien d'eux. On ne peut même pas savoir où ils sont internés. Il me semble, cher Stefan Zweig, qu'ici, l'initiative charitable privée pourrait faire beaucoup à défaut de l'action officielle. Si des hommes et des femmes généreux d'Autriche, d'Allemagne et de France voulait se mettre à la recherche de ces camps d'internés civils, en dresser la liste et se la communiquer d'un pays à l'autre par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale, ce serait une grande œuvre humaine. Et je ne vois pas en quoi elle pourrait contrarier les desseins de nos gouvernements, puisqu'il y aurait toujours dans l'échange de ces renseignements une exacte réciprocité. Mais ne croyez-vous pas que nos grands intellectuels des quatre pays aux prises trouveraient dans de pareils travaux le plus bel emploi de leur activité? Nous nous occupons aussi de la question des blessés. Vous pouvez être certain que l'on fait tout ce qui est possible pour que les vôtres et les nôtres soient bien soignés. J'ai de nombreux exemples de l'affectueuse fraternité entre blessés des deux armées. Malheureusement, leur nombre est si grand que l'on manque en beaucoup d'endroits d'infirmiers.
Il est vrai que 3 mois de guerre ont suffi pour faire naître entre nos soldats allemands et autrichiens et les soldats russes une sorte de camaraderie. Les prisonniers sont traités comme des frères et journaux et lettres regorgent de ces petites histoires émouvantes. Les soldats français et allemands se sont également liés d'amitié. Rien ne m'émeut autant que ces petits moments de fraternité qui fleurissent soudain au milieu d'une mare de sang dans les combats. Je crois que l'on devrait plus tard rassembler dans un livre ces exemples de sentiments humains qui s'assemblent fortuitement dans la souffrance partagée et qui sont plus forts que toutes les oppositions dues aux langues et aux mots.
Que ne pouvons-nous nous voir ? Votre lettre m'a fait une grande joie. J'estime que le plus grand service que rendrait au monde des hommes comme nous, qui voudraient travailler à dissiper les malentendus meurtriers entre les nations et à diminuer les horreurs de la guerre, serait de se réunir en pays neutre, afin de loyalement se faire connaître leurs griefs et leurs torts mutuels.
Je vous prie de m'accorder votre entière confiance dans mon projet visant à tout mettre en œuvre pour obtenir une réconciliation au moins spirituelle. Le silence et l'indifférence sont criminels aujourd'hui. Je crois que votre idée de vouloir réunir à Genève les meilleurs hommes de chaque nation à une sorte de parlement moral est la chose la plus noble et la plus nécessaire qui puisse être faite. Mais il faudrait des personnalités déterminantes. Et quelles seraient les actions à envisager? Je pense à une sorte de journal que le comité en question éditerait une fois par semaine, un journal qui démentirait les mensonges, porterait à la connaissance du monde les cruautés avérées, publierait toute suggestion pour plus d'humanité en ces temps de guerre et adoucirait les souffrances inutiles. Que sommes-nous, Romain Roland? Et quelle est notre utilité si nous ne pouvons, nous servons pas maintenant du pouvoir que nous confère la parole? Votre proposition est si noble et si belle, alors mettez-la maintenant à exécution. Peut-être que nous n'y arriverons pas. Mais il faut démontrer qu'il n'y a pas que du nationalisme en ce monde, mais aussi de l'idéalisme. Il est vrai que nous expions tous maintenant d'avoir cru à ce point à la maturité de l'humanité. Vous et moi, comme tant d'autres, nous avons tous pensé que cette guerre pourrait être évitée et uniquement pour cette raison-là, nous ne l'avons pas suffisamment combattue lorsqu'il était encore temps.
Ça reste tragique que les hommes doutés d'imagination n'aient point perçu l'horreur dès le départ, que les passions aient pu à ce point se détacher de la raison et en une seconde se défaire de toutes ces années d'expérience.
Le rêve allemand de conclure une alliance avec la France, de devenir son ami, existe toujours. Je sais que cet amour est unilatéral, mais ce n'est pas une raison pour le nier. Et je crois que sur le plan de l'esprit, tel que nous l'entendons, l'entente entre la France et l'Allemagne est toujours tout à fait possible. Nous, la France et l'Allemagne, nous sommes, c'est vrai, le cœur de l'Europe. Et ces deux pays doivent arriver un jour à communiquer et à s'entendre. C'est pourquoi tout ce qui empoisonne cette relation chez vous comme chez nous est un crime. Personne ne sait comment finira cette guerre, mais je sais qu'après, il y aura la paix et que le devoir de ceux qui ne se battent pas est de préparer cette paix et dès maintenant. Je vous salue sincèrement, mon cher ami. Jamais vous ne m'avez semblé aussi essentiel pour ma vie et pour celle des autres qu'aujourd'hui. Tous mes vœux vont vers vous et vers cette grande communauté européenne qui souffre et à laquelle nous appartenons tous deux fraternellement. Malgré tout.
Mon bien cher ami, de tout cœur, je vous remercie pour votre lettre et votre visite trop brève. Ces quelques jours passés ensemble ont encore resserré les liens d'estime et d'affection qui m'unissent à vous. Vous êtes un des très rares esprits d'Europe qui me soit fraternel. L'épreuve qui a ruiné tant de faibles amitiés a trempé la nôtre. Vous avez un grand bonheur, mon ami. Auprès de vous marche, la main dans la main, une chère compagne. Croyez que le peu de temps que je vous ai vu ensemble m'a suffi à sentir la source de bonté profonde et la beauté morale qui est en elle. Je suis heureux pour vous deux, mes amis. Ce qui m'est cher en vous, c'est que vous êtes humain, profondément humain. Si peu d'hommes le sont restés, vous avez le respect et l'amour de la vie. Vous ne le sacrifiez pas à ces idéologies magnifiques et dérisoires qui sucent comme des vampires le sang de l'humanité. Vous connaissez la saveur toute pure de la vie et de la souffrance humaine. Vous communiez avec elle. L'intelligence européenne s'agite en proie à un cauchemar. Gardons les yeux ouverts. Observons et prions.
La souffrance d'autrui m'accable. Je pressens le malheur de ces millions de personnes et jamais, non jamais, la pensée, il ne s'agit pas de toi, il s'agit des autres, ne me rassure. Je ne comprends pas qu'on puisse faire de la poésie tranquillement dans son coin, en ignorant tout et en se tenant à l'écart. Toute cette poésie de guerre, toutes ces agitations me dégoûtent. La vie des autres m'obsède. Je suis sensible à la souffrance, non pas au triomphe, et j'ai en horreur ces discussions d'ordre militaire et stratégique, cette arithmétique du crime et du meurtre. Je suis devenu étranger à mes amis d'autrefois. Eux, ils peuvent encore être gais, moi, pas. Le sentiment le plus élevé dont je sois encore capable, c'est l'appréciation paisible d'un paysage ou de la musique. Rien à voir avec mon enthousiasme d'autrefois. Il m'a été extrêmement pénible de perdre un ami de jeunesse avec lequel je me suis brouillé pendant nos années d'études. J'ai le cœur meurtri de ne pas lui avoir tendu la main avant qu'il ne parte. Maintenant, il est mort et un mot de ma part aurait été une grande joie pour cet être partant au front. Voilà la leçon que j'en retire. Plus jamais je ne me montrerai avare de générosité et d'indulgence vis-à-vis des autres, et j'étoufferai en moi tout orgueil personnel et toute arrogance. Ah, de combien de bonté et d'abnégation aurons-nous encore besoin, nous tous, après cette guerre ? À présent, j'économise toutes mes forces intérieures et je les endurcis uniquement en vue de cette échéance. Et je suis certain, Romain Roland, de pouvoir compter sur votre aide à ce moment-là.
Il faut se faire ermite en ces temps-là, où la seule action pure et peut-être efficace est la prière, et le travail solitaire est prière.
Allemagne, exterminatrice de race, poème d'Émile Verhaeren. Allemagne, Allemagne, ô veilleuse du crépuscule, c'est donc bien là le cri qui sort de tes montagnes, et les hameaux par des hordes bouleversées ne sont plus qu'incendies et froid et fureur rouge. Des cadavres d'enfants s'y tiennent embrassés, leur mère fut violée et gît là-bas dans l'ombre, la chair pillée et nue au rebord d'un fossé, pleine de sang frais et fumant, des mains sans nombre ont essuyé leurs crimes immondes au long des murs. Des doigts de vieillards morts sont crispés vers l'azur, des garçons de 10 ans avec leurs sœurs par tas restent collés à la margelle, des fragments répandus de crânes et de cervelles, ainsi pendant les jours aux aurores tragiques, partout en Arménie, en Pologne, en Belgique, le même orage. Non ! Non, je refuse. Et je refuserai toujours d'admettre que les soldats allemands aient ou soient plus cruels que ceux d'une nation civilisée dans les mêmes conditions. C'est pour cette raison que le poème d'Émile Verhaeren m'a touché à ce point, parce qu'il conclut soudainement que le sadisme est une particularité inhérente à la nation allemande. C'est pour cette raison-là que nous sommes tous tellement consternés par ces vers, parce qu'ils généralisent. Vous ne vous êtes jamais risqué, Romain Rolland, ni quelqu'un d'autre de juste ou de clairvoyant, à juger un système à partir d'actes isolés, à condamner un peuple à cause de quelques individus, et de surcroît, appeler héroïsme chez soi et crime chez l'adversaire la cruauté inhérente à la guerre et au meurtre, appeler héroïne des femmes qui ébouillantent des soldats, et appeler ces mêmes soldats assassins de femmes lorsqu'ils ripostent en tirant sur ces héroïnes-là. C'est ça la faute dont j'essaie de me libérer en ce moment avec toute l'énergie morale dont je suis capable. Comprenez-moi, très cher ami, je ne veux pas nier les cruautés, mais les expliquer et souligner une fois encore qu'il faut les attribuer non pas au peuple allemand, ni même à un ordre militaire, mais seulement à la guerre, et aux conditions particulièrement dangereuses d'une guerre conduite en pays ennemi. Celle-ci est toujours plus dure pour le pays attaqué que pour le pays adverse, mais aussi plus dur pour ceux qui l'envahissent, beaucoup plus dur.
Je connaissais la poésie de Verhaeren. Je n'ai pas voulu vous en parler. J'aurais voulu vous la cacher, car je savais bien le chagrin qu'elle vous ferait. Mais, mon ami, il vous faut bien comprendre ce pauvre homme. Vous ne saurez jamais assez tout ce qu'il a souffert. Dans la lettre qu'il m'a écrite, il dit « Je suis plein de tristesse et de haine. Ce dernier sentiment, je ne l'éprouvais jamais. Je le connais maintenant. Je ne puis le chasser hors de moi. Et je crois être pourtant un honnête homme pour qui la haine était jadis un sentiment bas. Pensez à la somme de douleurs que représentent ces lignes et qui ont pu amener en cet homme si bon, si indulgent, cette transformation qu'il épouvante lui-même. Cher Zweig, il va de soi que les vers de Verhaeren sont une déformation passionnée de la vérité, mais cette vérité est déjà épouvantable, et j'ose dire que vous ne la connaissez pas. Je ne puis vous en parler. J'ai longtemps longtemps douté. Je ne le puis plus maintenant. Je n'accuse aucun peuple. Mais pendant 2 ou 3 semaines, au début de la guerre, il s'est passé en plusieurs régions que je connais des choses innommables. Ça a dû être une sorte de folie, un vertige causé peut-être par la vue de quelques atrocités individuelles. Vous savez, la contagion de certains actes dans des natures déséquilibrées par la fièvre et l'horreur de la mêlée. Il est trop tôt pour tâcher d'expliquer ou d'établir les premières responsabilités, mais les faits sont là. Mon ami, je n'accuse personne. Je n'accuse que la guerre. Et je plains tous les malheureux qui en sont les victimes affolées, ceux qui font le mal aussi bien que ceux qui le subissent. Le tragique de la situation actuelle, c'est qu'il y a de tous les côtés et dans tous les camps assez pour justifier les pires reproches mutuels et aussi l'enthousiasme que chaque peuple éprouve pour sa cause. Il ne faut pas se décourager. Ce sont les grands jours d'épreuve, ce sont les temps héroïques pour les hommes comme nous. Que deviendra le monde après qu'auront passé ces cyclones de haine? Que restera-t-il de notre Europe? Je ne sais en dehors de nous, mais je sais qu'il restera nous et qu'il s'agit de sauver en nous l'esprit européen. Ce n'est pas assez dire l'esprit universel. Donnons l'exemple. Zweig, d'homme qui n'abdique point, qui ne se renie pas eux-mêmes. On n'agit pas sur le monde par des raisonnements, on agit par des exemples. Ce qui est sûr, c'est que la première tâche sera de grouper dans le monde les fortes individualités libres, dégager les préjugés de toutes les patries et de tous les partis. Dès à présent, j'y travaille. Jamais je ne m'enfermerai plus dans le cercle d'une patrie. Cette terrible guerre aura eu pour effet sur moi de briser tous les barreaux de ma cage. Et croyez-moi, quoi qu'il arrive, que je suis et je reste votre ami autant et plus que par le passé. Je vous serre la main. De tout cœur, votre dévoué.
Je viens de recevoir une lettre d'un ami actuellement sur le front des Carpates, où la bataille fait rage plus effroyablement que jamais. Il m'écrit que l'estime entre pays ennemis a atteint maintenant une telle ampleur que le jour où les armes se tairont, ceux qui dressent aujourd'hui les uns contre les autres les poussera alors l'un vers l'autre. Dostoïevski l'avait déjà dit, que la rencontre des peuples en temps de guerre éveillerait en eux le désir de se connaître en temps de paix. Je pense qu'il y a là une grande vérité. Rarement on a lu tant d'auteurs russes chez nous et en Allemagne. Mon libraire m'a dit qu'il n'a jamais vendu autant de Tolstoï et de Dostoïevski. On ne peut pas dire la même chose pour les auteurs allemands en France. J'aime cela en Allemagne, que l'on fasse davantage confiance aux poètes qu'aux journaux et aux revues, parce que les poètes, les seuls à être sincères car intemporels, se posent des questions sur l'âme de l'ennemi et sur le sens profond des choses.
Les calomnies de la presse déforment chacun de nos actes et guette la moindre occasion de jeter le soupçon sur les rares esprits libres.
Oui, en France, le pouvoir de la presse est particulièrement inquiétant. Chacun sait qu'il s'agit d'un mensonge, et pourtant ce mensonge conserve son pouvoir sur tous, sur toute la collectivité. C'est le pouvoir le plus cruel sur Terre, car le plus irresponsable. C'est le stigmate de notre époque. Ce tissage de haine et de mensonges fait sans scrupule, impossible à corriger et contre lequel on ne peut rien.
à Paris. Le peuple gobe réellement tout ce qu'on dit. Et cet abîme qui s'ouvre pour des années, c'est horrible. Que d'efforts ne faudra-t-il pas à nouveau pour combler ce fossé creusé entre les nations par l'explosion des méchancetés et des mensonges de ces criminels? J'affirme que la crédulité est un vice, un manque d'éducation, un défaut. Seule la compréhension est capable de venir à bout de la haine. Seul le savoir peut réduire les malentendus entre les nations. La canaille intellectuelle, avec sa culture au rabais qui conçoit les journaux de nos jours, est autrement plus dangereuse que la population des quartiers ouvriers ou des banlieues. Car celle-ci, avec ou sans morale, fait preuve de force et de courage. Tandis que ces trouillards cachent leur vrai visage derrière leur plume. Seule l'ignorance rend possible une telle haine. Certes, Verhaeren aussi, mais je ne veux plus en parler.
Chacun de nous se trompe. On n'est pas fier d'être homme. Nous le sommes tous. Plaignons-nous, aidons-nous. Bon courage, votre ami.
Les gens confondent leur volonté personnelle avec les faits. On veut créer des malentendus par peur de la vérité.
C'est la vertu qui manque le plus au monde aujourd'hui. Les générations actuelles sont malades d'orgueil. Elles ne savent plus douter.
Chaque jour fortifie mes impressions que nous ne sommes que des atomes sans force dans cette matière brûlante du temps. Incapable contre la folie, étouffé par cet ouragan de mensonges, on ne peut que travailler que pour soi, mais pour ce moi en nous qui est l'éternel de l'humanité. Je suis là des conversations, là des efforts vers la réalité. Il n'y a plus rien de commun entre moi et la folie du monde. Je sens que je n'en comprends plus rien. Et je ne fais plus d'efforts pour comprendre cette humanité. La folie est inexplicable. C'est à elle-même de se tuer. La vie sans sûreté, la vie d'un jour à l'autre. La vie en attente me pèse lourdement. Et je veux essayer de me sauver par le travail.
Je respire dans votre lettre une profonde souffrance. Elle n'est que trop naturelle. Cependant, luttons contre elle, souffrir avec l'humanité, oui, mais non couler au fond avec l'humanité. Elle s'en gardera bien d'ailleurs. Il faut sauver ce qu'on peut, mais ne point partager le sort de ce qu'on ne peut pas sauver. Notre pouvoir de bien comme de mal est minime. Il faut s'en contenter. Et si l'on ne sauve qu'une âme dans l'univers, n'est-ce pas beaucoup déjà? L'univers est dans une âme.
À l'instant, les journaux annoncent que l'on vous a décerné le prix Nobel de littérature 1915. Toutes mes sincères félicitations. Je sais que cette distinction vous vaudra beaucoup de haine, mais nous nous réjouissons de voir 30 années de travail soudainement se transformer en gloire et en lumière, et c'est ce qui compte.
Cher fidèle ami, votre salut affectueux a été une fois de plus le premier de tous à me parvenir. Je ne puis vous dire combien je suis touché de cette constance du cœur qui veille sans se lasser. Je suis reconnaissant à l'Académie suédoise de l'honneur qu'elle me fait. Je ne veux rien garder de l'argent. Je viens d'écrire aux journaux que j'en disposerai entièrement en faveur d'œuvres de bienfaisance et d'assistance. Et je ne veux rien pour moi que la liberté. Au revoir, j'espère, mon cher ami. Puissions-nous bientôt voir l'aurore qu'annonce d'heure en heure nos cris persévérants de veilleurs perdus dans la nuit.
De nouveau, il m'a fallu allumer un cierge en amical souvenir de Mamy tombée au combat. Maintenant, je sens déjà une douzaine de ces flammes frémir et se consumer en moi. Petite brûlure que je perçois plus vigoureuse encore au moment où je prends la mesure de la situation.
Et dire qu'il se trouve des apôtres, des pasteurs pour ordonner, sanctifier, célébrer ces tueries au nom du Christ et au jour de sa passion.
Mon très cher ami, je tiens à vous écrire plus longuement aujourd'hui et avec autant de sincérité que possible. L'amour que je ressens pour vous et votre œuvre se doit de ne pas rester muet si, pour une fois, il désire vous contredire. Je crois que le plus modeste des hommes a le droit de critiquer le meilleur s'il voit celui-ci dans l'erreur. Si nous nous écrivons, ce n'est pas pour faire de la politique, ni pour nous convaincre mutuellement de nos propres convictions, mais pour nous éclairer et pour nous préserver des passions trompeuses. Nous n'avons tous deux qu'un seul but, la justice. J'ai lu votre article « Le meurtre de l'élite » et je trouve qu'il marque un pas en arrière. Je comprends tout à fait votre intention noble et profonde. Vous avez voulu détacher les Français de leur haine des Allemands, mais pour donner du crédit à vos paroles, vous avez fait des concessions. Vous avez abandonné la notion d'universalité que vous aviez si magnifiquement conquise et vous avez pris parti. Votre article ne s'adresse pas au monde, mais aux Français. Vous avez enveloppé la vérité que vous vouliez leur communiquer, cette noble, belle et impérieuse vérité de ce qui est humain, sous tous les drapeaux et sous tous les étendards. Vous l'avez entouré d'un papier tape à l'œil, bariolé au ton tricolore. Vous savez que j'aspire de tout mon être à l'objectivité. Et de même que je suis reconnaissant à toute personne qui me fait remarquer mes emportements sentimentaux, j'attends en retour de mon semblable, de celui qui partage mes attentes, qu'il écoute de bon gré une critique. Vous dites deux choses, Romain Rolland. Au lecteur, ou plus exactement aux Français, deux choses qu'ils aiment entendre et que vous ne pourriez néanmoins pas prouver. Premièrement, que le gouvernement allemand a voulu la guerre. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais seulement vous poser une simple question de bon sens. Un peuple peut-il vouloir une guerre contre les trois plus grandes puissances du monde ? Un gouvernement, dans un pareil cas, peut-il vouloir la guerre ? Et la France est-elle donc si pacifique ? Qu'y avait-il dans les librairies depuis des décennies ? Des appels à la revanche et à la guerre ? Je crois qu'il n'est pas permis à quelqu'un se voulant objectif d'attribuer la faute à un seul État, et vous vous contredisez vous-même, car dans un précédent essai, vous avez attribué la faute à tous et non pas à un seul. Deuxièmement, vous opposez le courage et l'enthousiasme de la France pour la justice à la discipline de l'Allemagne. Cela aussi est erroné. On ne peut réduire ceux d'un côté comme de l'autre à un concept. Je crois qu'on ne peut pas faire l'éloge d'un peuple aux dépens d'un autre peuple. Tous deux méritent la gloire, ne serait-ce qu'en raison de leur souffrance et de leur mort. À quoi bon donc, Romain Rolland, cette confrontation ? N'est-ce pas assez que les peuples s'affrontent par les armes ? Est-il vraiment nécessaire que nos meilleurs hommes comparent de surcroît leur essence spirituelle ? Je vous le répète, très cher ami, je comprends la noble intention de votre essai, mais vous allez peut-être obtenir l'effet inverse à celui escompté en opposant quelques personnes à toute l'Allemagne.
C'est comme si l'on disait « La France, quel pays merveilleux et si juste, un des siens, Romain Rolland, est le seul être raisonnable et objectif parmi des millions d'hommes. » Ne trouveriez-vous pas un tel éloge insupportable ? Ne préféreriez-vous pas sincèrement que vos actes et votre œuvre soient méprisés et reniés tandis que l'on célébrerait le pays dans son ensemble et la nation unie ? Je crois, très cher ami, que l'on devrait actuellement laisser de côté la psychose et la psychologie des masses au plan national. L'élan des masses n'est pas dû à un sentiment harmonieux, mais fait de sautes d'humeur. J'ai vu, ici et ailleurs, l'ambiance changer de façon brutale, individuellement et globalement, et pour cette raison, l'expression particulière, par exemple, une lettre, si authentique soit-elle, n'est souvent qu'une falsification et un faux témoignage à un degré supérieur. Et des lettres isolées, souvent écrites dans un accès de fatigue, de haine ou seulement de lassitude, ne prouvent rien et ne devraient donc jamais être utilisées par un juste. Je crois vraiment que nous, qui ne faisons pas partie des combattants, nous devrions éviter tout jugement sur les compétences et l'état d'esprit de l'armée, car nous sommes tributaires des impressions des autres qui ne reflètent que leur propre regard. Très cher ami, j'ai cru devoir vous écrire ceci. Vous m'avez énormément aidé ces temps-ci à préserver mon équilibre intérieur. Je dois donc vous prouver ma gratitude en vous parlant franchement lorsque vous-même vous fléchissez en dépit de votre volonté profonde. Nous sommes tous soumis à l'heure actuelle et bien plus que nous ne l'imaginons au courant du moment qui nous emporte souvent brutalement loin de notre but. L'Europe. Aussi devons-nous nous interpeller mutuellement et nous indiquer la direction à suivre afin de ne pas perdre de vue notre but et de rester unis dans cette fraternité aux liens invisibles que sont l'amour universel et la confiance. J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de mes paroles sincères. Votre toujours fidèle ami dont l'amour reste indéfectible.
Je vous suis reconnaissant de me dire toujours ce que vous pensez avec franchise. Je sais bien que je me trompe souvent. Aucun de nous n'a la vérité. La vérité est la somme de toutes nos erreurs. Je ne suis donc pas surpris que mon dernier article ne reflète qu'une faible partie de la vérité. Seulement, je crois que vous étiez trop indulgent pour les articles précédents, car ma pensée n'a guère varié. Vous verrez que j'attribue à tous les États, je dis État et non pas peuple, une part de responsabilité. Encore une fois, je ne prétends pas que notre vérité soit la vérité totale. Mais cette vérité est la nôtre, et nous ne pourrions la renier sans nous renier nous-mêmes. Cela me vaut d'être malmené par les deux majorités opposées. Si mon article « Le meurtre des élites » déplaît en Allemagne, où l'on trouve ces confessions d'isolés humiliantes pour la cause générale, il n'a pas moins irrité en France, où l'on me reproche violemment de ne montrer des ennemis que ce qu'ils ont de plus beau. Je me lasse à la fin. Voici un an que j'essaie de faire entrer un peu de raison et de pitié fraternelle dans la tête de ces exaltés. J'ai beau user de ménagement et panser les blessures de la main la plus douce que je puis, je ne réussis qu'à me faire accuser par chaque parti d'être gagné à la cause de l'adversaire. Je ne m'affecte pas beaucoup d'être injurié ou condamné par tous, mais en vérité, je perds mon temps. Je n'ai pas conquis une âme à la cause que je défends. Or, donc, je me retire. Rien à faire contre le fléau qu'à le laisser s'épuiser de lui-même. Je n'écris plus d'articles. Je sens se réveiller en moi le besoin impérieux de la vie intérieure, de l'art que j'ai refoulé depuis un an. Au reste, je suis harassé non seulement par les soucis généraux, mais par des soucis particuliers qui n'ont cessé de me harceler tous ces derniers mois avec une insistance fiévreuse. Avez-vous remarqué comme tous les sentiments particuliers, affection, antipathie, inquiétude, participent cette année à l'exaltation générale? C'est véritablement une maladie de la planète! Bref. Je quitte Genève dans une huitaine et je vais chercher dans quelques hauts vallons fermés de la Suisse allemande auprès d'un frère ruisseau pour compagnon le tête-à-tête avec l'impassible nature et avec le démon inconnu que chacun porte en soi. Quelle chose singulière que cette force de la vie indépendante du cœur, plus forte que la volonté.
Je me dois de respecter votre décision de vous taire, très cher ami, quoique votre voix va manquer à tout le monde. Mais moi aussi, je m'y suis résigné. L'incompréhension est en ce moment plus forte que la volonté de s'entendre. Mais cela étant, je vous ramène du front cette unique et extraordinaire consolation. Après la guerre, on se parlera autrement. Actuellement, seuls ceux qui sont restés à l'arrière s'expriment dans les journaux, mais par la suite, s'élèveront les voix de ceux qui ont tout enduré. Pour le moment, ils se taisent, mais ils voient et endurent leur propre souffrance tout en percevant également la souffrance et les qualités de l'adversaire. Ces hommes qui ont vu couler le sang seront indulgents et bienveillants. Les poèmes d'Ernst Adler, qui, comme vous le savez, est tombé en France, étaient extrêmement prometteurs. C'était aussi l'un des meilleurs traducteurs du français. Il m'avait promis sur l'une de ses dernières cartes postales en provenance du front de collaborer à mon édition de Paul Verlaine. C'est très émouvant pour moi de regarder aujourd'hui cette carte postale d'un être qui est tombé pour l'Allemagne, touché par une balle française, tout en se battant pour la culture française.
Vous venez d'écouter la première partie de la lecture Les Amis Européens, enregistrée en décembre 2015 à l'Espace Bonnefoy à Toulouse. Rendez-vous samedi prochain, même heure, pour la seconde et dernière partie de cette lecture-spectacle autour de la correspondance entre les écrivains Stefan Zweig et Romain Rolland, avec les comédiens Alain Dafos et Jean Stéphane.